France Inter.
Ambiance animée donc sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Cela faisait des jours que les députés n'avaient pas pu interroger l'exécutif sur les dossiers sensibles de la rentrée. Vacances parlementaires obligent, nouvelle session ouverte depuis ce matin au Palais Bourbon. Et les députés qui ne manquaient pas de questions, surtout depuis l'affaire retentissante du contrat rompu des 12 sous-marins australiens. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Un camouflet politique et diplomatique qui a pris beaucoup de place à la tribune.
Oui, à bâbord comme à tribord, à gauche comme à droite. 6 questions, c'est beaucoup, sur cette crise des sous-marins. Et c'est Philippe Gosselin qui résume le sentiment général.
En 2016, on parlait du contrat du siècle. Aujourd'hui, c'est l'affront du siècle.
Le député Les Républicains de la Manche qui fustige la naïveté française.
Comment le gouvernement a-t-il pu être aussi sourd au bruit de fond qui entoure ce contrat depuis quelques années? Vous n'auriez rien vu, rien entendu, vous devez vous expliquer.
La réponse de Florence Parly, la ministre des Armées, qui maintient la version de l'exécutif, celle de l'annonce surprise.
Nous avons appris cette annonce de dénonciation quelques heures avant la dénonciation publique.
Et de leur côté, les communistes de Fabien Roussel y voient une bonne raison de quitter enfin l'OTAN. Même chose chez les insoumis du député Bastien Lachaud.
L'heure n'est pas à bouder, mais à agir. L'indépendance de la France, voilà à quoi les Français aspirent. Souhaitez-vous réellement garantir l'indépendance de notre pays? Si oui, quand déciderez-vous de quitter l'OTAN?
Florence Parly, à nouveau, pas d'accord sur la solution, mais d'accord sur le constat déjà posé par Emmanuel Macron depuis des mois.
Celui d'un défaut de dialogue politique au sein de l'Alliance Atlantique.
Séance de questions au gouvernement qui résume toute l'ambiguïté de la situation pour le président. D'un côté, un risque politique en France, avec des oppositions qui en profitent pour dénoncer sa supposée faiblesse sur la scène internationale. De l'autre, une opportunité diplomatique, celle de réinventer l'OTAN et de construire enfin cette Europe de la défense qu'il appelle de ses voeux.
Les sous-marins australiens mis en question au Parlement, c'était Simon Le Baron du service politique de France Inter. Merci. L'affaire des sous-marins qui fait également des vagues jusque de l'autre côté de l'Atlantique, à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York qui s'est ouverte aujourd'hui. Le comportement des États-Unis est irritant et décevant pour le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Emmanuel Macron, précisons-le, ne prendra pas la parole à l'ONU en son absence. C'est le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, qui montera à la tribune des Nations Unies. Le président américain, lui, en revanche, était bien en personne à l'Assemblée générale de l'ONU, Joe Biden, qui assure, je cite, qu'il ne cherche pas une nouvelle guerre froide, dans une allusion claire aux tensions avec Pékin. Il veut au contraire, dit-il, ouvrir une ère de diplomatie. Washington, a-t-il ajouté, reviendra pleinement dans l'accord sur le nucléaire iranien si Téhéran fait de même. Et enfin, dernière déclaration, les États-Unis, selon Biden, veulent doubler leur effort financier international contre le changement climatique. On reste aux États-Unis avec le drame de ces migrants haïtiens qui tentent depuis des jours de franchir les frontières entre le Mexique et le Texas. Des haïtiens expulsés en masse ces derniers jours vers Port-au-Prince. Hier, nouvel épisode, une vidéo choquante qui a ému tout le pays. On y voit un garde-frontière américain faire tourner son lasso et qui semble fouetter un migrant qui tente de mettre le pied côté américain après avoir traversé le Rio Grande. Même la Maison-Blanche a dû réagir. Les précisions à Houston de Thomas Arms.
Des haïtiens apeurés qui courent dans l'eau à proximité de chevaux montés par des gardes-frontières. Avec son lasso, l'un d'entre eux fait un geste vif en direction d'un des migrants haïtiens. Il semble même qu'il essaye de le charger ensuite. Sur une autre image, il la grippe fermement. Dès sa diffusion, la vidéo a essuyé un flot de critiques. L'élu démocrate Ilhan Omar, arrivé aux États-Unis en tant que réfugié de Somalie, a condamné une violation pure et simple des droits de l'homme. Interrogé sur le sujet, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a dû réagir.
Nous venons de voir cette vidéo. C'est horrible à regarder. J'ai besoin de plus d'informations là-dessus. Mais toute situation où un individu est traité de façon inhumaine à nos frontières ou ailleurs n'est pas en ligne avec la politique de l'administration Biden. Et je ne pense pas que quiconque a vu cette vidéo peut considérer que c'est admissible ou approprié.
De leur côté, le directeur de la sécurité américain, Alejandro Mayorkas, et Raúl Ortiz, le chef des gardes-frontières qui a longtemps travaillé à Del Rio, au Texas, ont aussitôt assuré qu'une enquête interne serait mise en place. Des représentants de la diaspora haïtienne ont eux aussi réagi et demandé l'arrêt des expulsions, car, disent-ils, le monde désormais regarde les États-Unis. Houston,
Thomas Harms, France Inter.
Et ajoutons que le chef du Sénat américain exhorte le président Biden à mettre fin aux expulsions, je cite, ignobles d'Haïtiens.
31 morts, des milliers de blessés et des mémoires qui s'affrontent.
Toulouse commémorait ce matin dans la division les 20 ans de la catastrophe d'AZF. Le 21 septembre 2001 à 10h17 explosaient 300 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans le hangar de l'usine chimique. 20 ans après, il n'y a pas de mémoire collective de ce drame. Les anciens salariés d'AZF notamment refusent la thèse judiciaire de l'accident et de la négligence. Résultat, comme chaque année, les différents collectifs de riverains et de salariés victimes se sont rassemblés séparément. Valentin Dunat.
Comme chaque année, l'alarme a retenti à l'heure de l'explosion du 21 septembre 2001, puis le nom des 31 morts a été lu devant le mémorial, les officiels, mairie, région, préfecture, et des anonymes, Guy par exemple, qui habitait à 500 mètres de l'usine.
C'est pas des choses qu'on peut oublier, je verrai toujours, et ce nuage, j'ai bien entendu l'explosion, bien sûr, comme tout le monde, et cette douleur en soi-même qui vous rappelle ce jour. C'est pour ça qu'il faut être là.
Être là, devant ce mémorial, n'est pourtant pas facile pour tout le monde. Des sinistrés, des blessés font bande à part depuis 19 ans.
Il faut qu'on se retrouve tous ensemble ici, au moins une demi-heure, une heure.
Les séquelles physiques et psychologiques sont telles que 20 années n'ont pas suffi pour créer une mémoire collective commune. Jean-Luc Moudinc, le maire de Toulouse, le déplore.
Moi j'aurais aimé comme maire, bien évidemment, qu'il n'y ait qu'une seule cérémonie, mais nous savons tous qu'il y a des mémoires douloureuses, que ces mémoires ne sont pas identiques. Et je pense que seul le temps fera son œuvre.
Pour l'instant, le temps n'a pas suffi et les désaccords sont nombreux, notamment sur le parcours mémoriel qui a été inauguré ce matin par le maire.
Le reportage de Valentin Dunat à Toulouse. L'énorme chantier de rénovation de la gare du Nord à Paris sur le point d'être abandonné. La SNCF envisage d'arrêter son contrat avec son partenaire Cetrus, propriété d'Auchan, en cause des dérives budgétaires et des retards qui commencent à coûter cher. 1,5 milliard d'euros, 3 fois plus que prévu. On y revient en détail dans le journal de 19h. Il voulait viser des restaurants kebab, le chantier de la grande mosquée de Vitrolles, mais aussi des personnalités politiques comme Christophe Castaner ou encore Jean-Luc Mélenchon. 6 anciens membres d'un groupuscule d'ultra-droite baptisé OAS sont jugés depuis ce matin pour association de malfaiteurs terroristes devant le tribunal correctionnel de Paris. Un procès qui doit durer près de 3 semaines. Compte rendu d'audience, Laurélie Carrive.
Son air sage détonne avec la présence à ses côtés de 2 policiers en cagoulé. Petites lunettes, chemise bleu pâle, Logan Nizin, 25 ans, est seul dans le box des prévenus. Ses 5 acolytes, eux, comparaissent libres. Vendeurs chez Intermarché, concepteurs d'applications, charpentiers ou sans emploi, tous, sauf un, reconnaissent avoir appartenu à l'OAS. Cette organisation créée en 2016 avec un but affiché, enclencher, je cite, la remigration de la France. Avant d'entrer dans le vif des débats, le tribunal doit se pencher sur une question. Jean-Luc Mélenchon peut-il se constituer partie civile dans cette affaire ? Le leader de la France insoumise a été évoqué comme cible potentielle par le groupuscule. Il faut qu'il réponde à ceux qui ont voulu sa mort pour des idées politiques, lance son avocate. Le parquet, lui, est contre, invoque la jurisprudence. Sinon, est-ce que n'importe quelle personne juive, musulmane, peut-elle aussi venir à la barre, faire valoir un préjudice ? Où s'arrête-t-on ? Interroge la procureure. En défense, les avocats font bloc, dénoncent une instrumentalisation du procès. Entendre Jean-Luc Mélenchon serait lui donner une tribune politique. L'incident sera finalement tranché au moment du jugement. Le leader de la France insoumise sera donc entendu vendredi, au lendemain de son débat avec Éric Zemmour, comme un avocat ne manque pas de le souligner.
Laurélie Carrive au tribunal correctionnel de Paris. 3 autres membres de l'OAS mineurs au moment des faits seront jugés le mois prochain par le tribunal pour enfants. On vous en parle depuis ce matin de cette plateforme téléphonique et de ce site internet destiné aux victimes adultes de violences sexuelles. Il a été lancé aujourd'hui pour permettre à toutes et à tous de témoigner. Des centaines d'appels et de courriels sont déjà arrivés en quelques heures seulement. Rappel du numéro, le 0805-802-804 en métropole, le 0800-100-811 pour l'outre-mer. S'agit-il d'une nouvelle affaire entre bandes ? Un adolescent de 16 ans originaire de Bagnolet a été tué d'un coup de couteau à la poitrine. C'était hier soir au Lila, en Seine-Saint-Denis. Un adolescent de 17 ans suspecté d'être l'auteur du coup mortel a été interpellé. C'est quasiment devenu un sport national. Après celui de Jean Castex, c'est le QR code du pass sanitaire d'Emmanuel Emmanuel Macron lui-même qui a fuité aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À l'origine, selon l'Élysée, la négligence ou la malveillance de plusieurs professionnels de santé, le Conseil de l'Ordre des médecins a été saisi. Les détails de cette affaire sur franceinter.fr.
Quand les incendies font monter le taux de CO2 à des niveaux records.
C'est la conclusion inquiétante du service européen Copernicus d'observation de la Terre. Tout l'été, on le sait, les feux de forêt ont fait rage sur la planète entière, en Grèce, en Russie, aux États-Unis, provoquant des émissions de dioxyde de carbone en juillet et en août, jamais observées jusqu'ici. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Le réseau de satellites européens Copernicus pointe encore une fois du doigt la responsabilité du réchauffement climatique.
Oui, les incendies monstres de cet été, notamment en Amérique du Nord et en Sibérie, mais aussi en Europe du Sud, ont relâché dans l'atmosphère plus de 2600 mégatonnes de CO2 en juillet et en août. Pour vous donner une idée, c'est environ 6 fois les émissions annuelles du territoire français. Des feux de forêt dans l'hémisphère nord entre les mois de mai et octobre, ce n'est pas rare. Ce qui inquiète, c'est leur nombre, leur taille et leur intensité. L'incendie Dixie en Californie a ainsi été l'un des plus importants jamais enregistrés. Les données du programme européen Copernicus illustrent bien le paradoxe actuel. On compte beaucoup sur les forêts pour lutter contre le réchauffement climatique parce qu'elles absorbent le CO2 de l'atmosphère. Mais aujourd'hui, les forêts sont aussi victimes du réchauffement climatique. Chaleur, sécheresse aggravent le risque d'incendie et un arbre qui brûle relâche le CO2 qu'il a stocké. On perd un précieux allié dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les feux de forêt ont aussi un impact sur l'air qu'on respire. Les images satellites du programme Copernicus montrent que le panache de fumée venu d'Amérique du Nord a traversé l'Europe cet été.
Sandy Dauphin, merci, spécialiste environnement de France Inter. Un dernier mot de sport pour terminer avec cette inquiétude qui monte au Paris Saint-Germain. La nouvelle perle du PSG, Messi, est blessé au genou gauche. Il sera forfait pour le prochain match contre Metz en Ligue 1. On ne sait pas encore s'il pourra jouer la prochaine rencontre de Ligue des Champions. Ce sera dans une semaine, mardi, contre Manchester City.